Chapitre 6. Le favori. Les minuscules vaisseaux avaient surgi des profondeurs du vide interstellaire pour s'enfoncer aussitôt droit au cœur de l'armada. Sans tirer un seul coup de feu, ni utiliser le moindre rayon d'énergie, ils se frayèrent un chemin à travers la zone encombrée d'appareils, puis poursuivirent leur route à toute allure, tandis que les mastodontes impériaux, lourds et maladroits, tentaient de faire demi-tour afin de les poursuivre. Deux éclairs silencieux scintillèrent dans l'espace lorsque deux des petits engins furent désintégrés. Puis, le reste disparut. Les grands vaisseaux fouillèrent l'espace, puis reprirent leur mission et, monde après monde, la grande toile du blocus continua de s'étendre. Brodrigue portait un uniforme martial soigneusement coupé. Conscient de la prestance que lui conférait sa tenue, il déambulait sans se presser dans les jardins d'une planète perdue baptisée Wanda, quartier général provisoire des forces impériales. Mais l'expression de profonde préoccupation qu'il affichait semblait démentir sa nonchalance. Belle Rios l'escortait, sa tenue de campagne ouverte au col. Ainsi vêtu de gris et de noir, il avait l'air particulièrement morose. Rios désigna un banc noir et lisse sous une fougère odorante dont les larges feuilles spatulées se dressaient mollement contre le soleil blanc. « Voyez, conseiller, ceci est un vestige de l'Empire. Ces bancs ouvragés qu'on a placés là à l'intention des amoureux sont encore debout comme au premier jour, prêts à servir, alors que les usines et les palais ont sombré depuis longtemps dans les ruines de l'oubli. » Il s'assit tandis que le secrétaire particulier de Cléon II restait debout devant lui, abattant une à une les feuilles de la fougère arborescente par des petits coups secs et précis de son bâton d'ivoire. Rios croisa les jambes et offrit une cigarette à son compagnon. Il en garda une entre les doigts et se mit à jouer avec tout en parlant. « Songez à envoyer un observateur aussi compétent que vous. » Voilà qui est digne de la sagesse éclairée de Sa Majesté impériale. Voilà qui achève de dissiper toute inquiétude que j'aurais pu éprouver en songeant à d'éventuelles affaires plus pressantes, capables peut-être de faire passer au second plan la petite campagne militaire qui nous occupe en ce moment, ici aux confins de la galaxie. L'empereur a des yeux partout, répondit Brodrigue machinalement. Nous ne sous-estimons pas l'importance de cette campagne, croyez-le bien. Il semblerait pourtant qu'on insiste un peu trop sur les difficultés qu'elle peut présenter. Leurs petits engins ne constituent tout de même pas un obstacle tel qu'il nous faille absolument entreprendre, dans les règles, toutes les manœuvres qu'un blocus préliminaire exige d'ordinaire. Rios s'empourpra, mais il sut garder son calme. Je ne puis risquer l'existence de mes hommes qui sont assez peu nombreux ou celle de mes vaisseaux qui sont irremplaçables par une attaque trop téméraire. L'installation d'un blocus réduira mes pertes lors de l'attaque finale, si difficile que puisse être l'opération. J'ai pris la liberté de vous en expliquer hier les raisons militaires. Fort bien. Dans ce cas, vous savez que je ne suis pas un militaire. Vous m'assurez en l'occurrence que ce qui semble de toute évidence juste est en réalité faux. Admettons. Mais votre prudence va encore plus loin. Dans votre second message, vous avez demandé des renforts, et cela contre un ennemi pauvre, numériquement faible et barbare, avec lequel vous n'aviez à l'époque pas eu une seule escarmouche. Souhaiter des renforts dans ces circonstances, voilà qui ressemble joliment à de l'incapacité. Ou pis encore, si votre carrière jusqu'à ce jour n'avait donné des preuves suffisantes de votre hardiesse et de votre imagination. Je vous remercie, répondit froidement le général. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a une différence entre la hardiesse et la témérité. On peut prendre un risque quand on connaît son ennemi et qu'on peut calculer ce risque, du moins approximativement. Mais faire le moindre mouvement contre un ennemi parfaitement inconnu, c'est de la témérité. Autant demander pourquoi le même homme court sans dommage une course d'obstacles dans la journée et trébuche sur les meubles de sa chambre la nuit. D'un geste du bout des doigts, Brodrigue balaya avec assurance les arguments de son interlocuteur.
« Vos arguments sont impressionnants, mais pas suffisants. Vous vous êtes rendu vous-même sur ce monde barbare. Vous avez en outre ce prisonnier ennemi que vous choyez, ce marchand. Vous n'êtes donc pas dans le brouillard.
Ah non ? Je vous prie de ne pas oublier qu'un monde qui s'est développé isolément depuis 2 siècles ne saurait nous être devenu familier au point que nous allions concevoir une attaque intelligente après y avoir séjourné 1 mois seulement. Vous regardez trop la Tridie. Je suis un soldat, pas l'un de ces héros tout en muscles à la mâchoire carrée dont on diffuse à longueur de journée les aventures abétissantes sur les réseaux hyper-ondes. Et ce n'est pas notre seul et unique prisonnier qui, par-dessus le marché, n'est qu'un membre subalterne d'un groupe économique sans lien direct avec l'ennemi, qui pourrait me faire pénétrer tous les secrets de la stratégie ennemie.
Vous l'avez interrogé ?
Oui.
Alors ?
Cela a été utile, mais pas capital. Son vaisseau est minuscule, sans importance. Il vend des petits objets qui sont amusants, sans plus. J'ai en ma possession quelques-uns des plus ingénieux que je compte envoyer à l'empereur, à titre de curiosité. Naturellement, il y a bien des détails du vaisseau et de son fonctionnement que je ne comprends pas. Mais je ne suis pas un techniste.
« Vous en avez parmi vos hommes ?»
fit observer Brodrigue. « Figurez-vous que je le sais aussi bien que vous, » répondit le général d'un ton un peu caustique. « Mais ces imbéciles sont loin de pouvoir m'être utiles dans ce domaine. » J'ai déjà demandé à ce qu'on m'envoie des spécialistes capables de comprendre le fonctionnement des circuits atomiques que contient l'appareil. Je n'ai pas encore reçu de réponse.
Ce genre de technicien ne court pas les rues, général. Mais il doit tout de même y avoir au moins un homme dans toute cette vaste province qui entend quelque chose à la science atomique.
S'il y en avait un, il serait déjà en train de réparer les moteurs poussifs qui font encore avancer tant bien que mal 2 des vaisseaux de la flottille qui me tient lieu d'armada. Sur les 10 appareils dont je dispose, 2 ne sont même pas capables de participer à un assaut d'envergure, faute d'énergie suffisante. 1/5 de mes forces est condamné à l'infamante perspective de devoir se contenter de consolider les lignes arrières en cas de conflit.
Vous n'êtes pas seul dans ce cas, général.
Dit le secrétaire avec un petit geste de la main qui exprimait éloquemment son impatience.
L'empereur a le même genre d'ennui.
Le général jeta les débris de la cigarette qu'il n'avait finalement pas allumée, en sortit une autre qu'il se décida finalement à allumer, puis il haussa les épaules.
Bah. Ce manque de technistes de première classe, ça n'est pas un problème immédiat.
À ceci près que j'aurais pu avancer davantage avec mon prisonnier si ma psychosonde était en bon état.
« Vous avez une sonde ?»
demanda le secrétaire en haussant les sourcils. « Une vieille. Un modèle archi-dépassé. Qui me lâche la seule fois où j'en ai besoin. Je l'ai mise en marche pendant que le prisonnier dormait. Et rien. Pas la moindre émission. Je me suis dit que c'était la sonde. Je l'ai essayée sur mes propres hommes. » Et là, les résultats ont été absolument normaux. Mais là encore, il n'y a pas un techniste qui soit capable de me dire pourquoi l'appareil ne marche pas avec le prisonnier. Dukembar, qui, sans avoir beaucoup de pratique, est assez bon théoricien, affirme que la structure psychique du prisonnier reste peut-être imperméable à la sonde, car depuis son enfance, il a été soumis à un environnement et à des stimuli nerveux absolument différents des nôtres.
Allez savoir. Mais il peut encore être utile. C'est dans cet espoir que je le garde en vie.
Brodrigue appuya le menton sur sa canne d'ivoire.
Je verrai s'il est possible de trouver un spécialiste dans la capitale. En attendant, qu'en est-il de cet autre personnage dont vous venez de me parler, ce Siwénien ? Vous entretenez trop d'ennemis dans vos bonnes grâces, savez-vous ?
Il connaît l'ennemi. Lui aussi, je le garde pour plus tard.
Il sait des choses qui pourront m'être utiles. Mais c'est un Siwénien. Et son père était un rebelle, un proscrit. C'est un vieillard à présent. Il ne peut rien contre moi. et sa famille tient lieu d'otage.
Je vois. Il me semble pourtant que je devrais m'entretenir en personne avec ce marchand.
Mais certainement.
Seul,
ajouta sèchement le secrétaire pour bien se faire comprendre.
Mais certainement,
répéta Rioz sans se démonter.
En tant que loyal sujet de l'empereur, je reconnais son représentant personnel comme mon supérieur.
Toutefois, comme le marchand se trouve détenu à la base permanente, vous allez devoir quitter la zone de front au moment où cela commençait à devenir intéressant.
Ah oui? Intéressant à quel titre?
En ce sens que le blocus est désormais achevé.
Aujourd'hui même.
Intéressant en ce sens que d'ici la fin de cette semaine, la 20e flotte frontalière va commencer à faire mouvement en direction du cœur de la résistance.
Rioz sourit et tourna les talons.
Sans qu'il eût su dire pourquoi, ce qui ne manquait pas d'ajouter à son agacement, Brodrigue avait l'impression que son interlocuteur venait de marquer un point.